Moi, c'est André de Mbujimayi au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, vient d'être déchue à la suite d'une pétition qui a recueilli après vote ce jeudi 10 décembre 2020 de 282 voix de oui et 200 voix de non, une abstention et un bulletin nul. Au regard de ces résultats, certains observateurs estiment que le FCC vient de perdre donc la majorité parlementaire et ouvre ainsi la voie à une nouvelle gouvernance politique prête à accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiokapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la charge de pouvoir intervenir dans cette émission sur notre page Facebook ou encore sur www.radiokapi.net. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyangasa et Marcel Ngombombala concourent à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Labung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Parole aux auditeurs reçoit pour vous et pour l'ensemble des internautes qui interagissent sur notre page Facebook. Maître Guy Mafuta Kabongo, qui est député national. Avec lui, nous allons décrypter cette actualité. Bonjour Maître Guy Mafuta Kabongo.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et merci de nous avoir honoré de votre présence dans ces studios. D'entrée des jeux, après les votes, est-ce qu'on peut confirmer que le FCC vient de perdre sa majorité?
Il faut d'abord saluer la journée d'hier. Moi, personnellement, j'ai assisté à un bel exercice de la démocratie, des règles qui étaient respectées et la transparence assurée. Je crois que c'est un exemple de démocratie pour une institution. Cela en appelle à ce devoir de redevabilité pour tout gestionnaire d'une institution publique, pour tout gestionnaire des deniers publics. Et je crois que nous nous sommes adonnés à cet exercice. Même si avant cela, il y avait quelques violences que j'ai condamnées sur plusieurs forats, mais l'essentiel est que nous avons atterri en paix. Et dire que c'est déjà le basculement, je crois que c'est encore trop tôt, mais il faut noter que la majorité, les parlementaires, étaient en déphasage avec le directoire de la famille FCC, ce qui a fait que le sens du débat est allé à l'encontre de ce que eux avaient estimé bien avant.
Alors, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui, parce qu'on sait que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale était autour de 305 députés pour les FCC, maintenant que les FCC vient de perdre, en tout cas logiquement, après les votes, 50 voix, 50 députés, qu'est-ce qui serait à la base de tout ça?
En fait, il y a des raisons internes et des raisons extérieures à l'Assemblée, à l'hémicycle. Du point de vue interne, les élus avaient des reproches, des griefs qu'ils ont formulés à l'endroit de l'ancien bureau. Je vais citer à titre d'exemple la faiblesse dans la production des lois et le blocage de beaucoup d'initiatives parlementaires. Moi qui vous parle, je suis auteur de plus ou moins 7 initiatives parlementaires, mais à ce jour, aucune d'elles n'a abouti. Et c'est le cas de plusieurs élus. Il y a par exemple le temps de parole. Vous figurez-vous, Monsieur JR, nous avons en une année sur 12 mois, nous travaillons pendant 6 mois. Et dans les 6 mois, quand vous voyez, on peut passer une semaine sans travailler. Et quand nous venons et pour prendre la parole, on est pressé. Il faut que les chefs de groupe parlementaire alignent votre nom. Ça fait quand même problème. Donc autant de questions en interne qui ont fait que les élus n'étaient plus d'accord avec le bureau. À côté de cela, il y a l'épineux problème du rapport financier que moi personnellement je n'ai jamais vu. Donc il y a eu des questions, des griefs internes qui ont fait que les élus n'avaient plus confiance au bureau. Du point de vue extérieur, comme je l'ai dit tantôt, c'est un fait, il faut être en phase avec la population. Vous savez, je l'ai dit tantôt dans plusieurs rubriques. Chez moi, à Chikapa, au village, on ne connaît pas FCC, c'est quoi? On ne connaît pas Cash, c'est quoi? Ce dont a besoin le villageois, le paysan, c'est voir son quotidien s'améliorer. Et nous, en tant qu'élus, on ne peut pas rester indifférent tant que la situation socio-économique de la population ne change pas par le simple fait qu'il y a un blocage. Un blocage dû au bras de fer entre ces deux composantes-là. De tout ce qu'on peut dire, aucun blocage ne profite à la population. Ça peut profiter à une famille politique, à un groupe d'individus, mais pas à la population. Et cette conscience a travaillé les députés que nous sommes pour parler d'une même voix. Je vous rappelle que la pétition a reçu les signatures des députés de tous bords. Nous nous sommes dit, mettons de côté nos clivages politiques, mettons de côté nos appartenances politiques pour penser peuple, pour penser développement. C'est pourquoi vous avez vu cette réaction.
Alors, est-ce que ce n'est pas là une réponse à ce que certains observateurs qualifient de menace, je mets ça entre guillemets, de dissoudre l'Assemblée si jamais le chef de l'État n'obtenait pas la majorité?
Pas forcément. Je crois qu'il ne faut pas réduire les députés.
Par peur de devenir
chômeur. Non. Il ne faut pas réduire les députés au fait que le député a peur du chômage. Non, je ne crois pas. C'est au fait que, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est l'institution qui, je crois, vit en son sein les vrais problèmes de la population. Nous sommes à 500 représentants de tous les recoins du pays. C'est à nous de vous dire quel est le vrai état de la nation. C'est à nous de vous dire que pense le Congolais profond de la gestion actuelle du pays. Ce n'est pas un problème de chômage, c'est que chaque jour, nous avons des rapports de nos bases respectives, nous nous sommes dit, puisque ça bloque à cause de la coalition, puisque ça bloque parce que personne ne peut faire de concessions, il nous revient à nous, parlementaires, de décanter la situation. Et je pense que c'est un signal fort qui a été donné pour dire qu'il est grand temps que nous puissions écouter la population. Le chef de l'État a eu l'avantage de l'écouter pendant, je crois, 3 semaines, et vous avez suivi son discours. Les parlementaires que nous sommes, nous écoutons la population régulièrement. Vous avez vu le sens de notre vote. Ce sont des actions qui vont dans la même direction.
Alors, mais au regard du résultat, on se rend compte que c'était pas facile. La bataille, c'était quand même serré, parce que 283 voix pour le oui et 200, c'est pas quand même énorme. C'est pas, la différence n'est pas quand même grande.
C'est la démocratie. C'est pour dire qu'il y a eu plus la conviction, la réflexion. Chaque député, en âme et conscience, a réfléchi, a écouté sa voix intérieure, a écouté les cris de ses électeurs pour se décider. Il n'y a personne qui a imposé à qui que ce soit la position à donner. Et en toute liberté, les élus que nous sommes, nous nous sommes prononcés et le score a été celui que vous dites là.
Alors, on va voir le deuxième aspect des choses, parce que vous avez dit c'est trop tôt de dire que voilà, la majorité a basculé. Mais entre-temps, est-ce que après ces élections, on peut dire que ces gestes que viennent de poser les députés ouvrent la voie à une nouvelle gouvernance politique?
Ce qui est sûr, ce qui s'est passé hier, c'est
historique. On quitte l'époque des consignes.
Ce qui est sûr, ce qui est passé hier, c'est historique. Et c'est même un déclic pour un Congo autre que selon ce que nous avons toujours vécu. Ce qui va devenir demain est fonction de plusieurs paramètres. D'abord, il y a le discours du chef de l'État qui c'est un discours qui a quand même pesé aussi sur la conscience des élus que nous sommes, parce que il en a appelé à la nation, il en a appelé à la cohésion, il en a appelé à cet éveil-là pour qu'on sache quand même comment résoudre les vrais problèmes de la population. C'est un discours qui retentit encore dans nos cœurs et je crois que les élus ont suivi ça, ont écouté cette voix-là, ont dit il faut donner quand même la chance à ce que le pays puisse décoller. Donc je dirais que après la soirée d'hier, plus rien ne pourra être comme avant.
Alors, donc, on peut encore comprendre qu'effectivement, les députés ont pris conscience et ils tiennent à accompagner les chefs de l'État.
Les députés se rendent compte qu'il faut aller dans le sens du peuple. Il faut aller dans le sens de la résolution des vrais problèmes du peuple. On ne peut pas résoudre la question de la population aux seuls 10 ou 15 politiques à Kinshasa. Ça, nous disons non. Et je pense que les élus ont compris et ont répondu à l'appel du chef de l'État.
Est-ce qu'on peut imaginer un scénario que le FCC va dans l'opposition?
Ça, en fait, ce sont des hypothèses, hein, que tout dépend en fait de la suite. Parce que là, la chute du bureau, c'est une première étape. Il faut poursuivre ce que dit le règlement. Il faut qu'il y ait un deuxième vote pour mettre en place un bureau définitif. Ce deuxième vote, certainement que ceux qui ont fait tomber l'actuel bureau auront une vision donnée. Et nos amis aussi, je suis encore FCC, auront également une vision à donner pour ce nouveau bureau qui viendra. Tout dépendra de cet équilibre-là. Mais je sens qu'il y a quand même un dynamique, un élan qui se crée. Mm-hmm. Pour vous rappeler, Monsieur JR, nous avons passé 72 heures, tel que le dit le règlement, la pétition déposée le samedi. Et c'est le lundi, le mardi que nous sommes réunis. Donc entre ces trois jours, chaque famille politique, chaque député pris individuellement, suivant son appartenance et suivant ce que sa conviction, sa conscience lui a demandé, a été dans un camp ou dans l'autre. Nous avons eu beaucoup de réunions, suffisamment de réunions pour que chaque député se fasse une idée de ce qu'il veut du pays demain. Et je crois que l'image du vote qui a eu hier, ce n'est pas une image accidentelle, occasionnelle. C'est une image qui a beaucoup de chances d'être maintenue comme telle.
081-890-6330 ou encore les 081-890-4969. Ce qui vient de se passer au Parlement, que cela vous inspire et comment commentez-vous cette actualité?
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Franck. Mais c'est Franck, vous êtes avec nous. On va prendre plutôt François qui est à Kinshasa. François, vous êtes à Kinshasa. Bonjour François.
Et bonjour, Gilles Lingamboulabouni. Bonjour à tous les auditeurs. Je pense que l'invité, c'est honorable Guy Mafuta.
Oui, c'est bien lui.
Voilà, j'ai suivi ça parce que on venait de me prendre en ligne là. Voilà. Je pense que c'est un bon sujet, monsieur Gilles Lingamboulabouni. Je pense qu'autrefois là, vous avez abordé le sujet sur les consultations qui ont été initiées par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, à qui j'ai rendu mes hommages les plus différents. En tant que politologue de formation. Je vous avais dit autrefois, lors de l'ouverture des consultations, que M. JR, vous savez, les consultations ont été internes et discrètes. Je vous avais dit que si on recevait M. Lambert Mende à deux avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, personne ne saura ce qu'ils se sont dit. Et j'avais dit, si Félix Tshisekedi recevait Moussa Mouissi, personne ne saura ce qu'ils se sont dit. J'avais dit, si on recevait Koko Nyangi, etc., etc., personne ne saura ce qu'ils se sont dit. Moi, je suis politologue de formation. Je suis ressorti à l'université de Kananga, extension de l'université de Boumacha à l'époque.
Oui, allez-y vite, François. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après ces votes, le FCC vient de perdre sa majorité?
Exactement, le FCC a perdu la majorité puisque beaucoup de ces députés ne sont pas restés loyaux et militants vis-à-vis de leur autorité morale. Ils ne sont pas restés disciplinés de ce que leur demande et leur parti politique. Vous savez, même la Constitution l'a dit, même si aujourd'hui le bureau Mabonde est tombé, mais il est pratiquement impossible, à moins qu'on change la loi, qu'on parte en dictature. Il est difficile que certains députés quittent le PPR délibérément vers un autre parti politique. Non, ils seront sanctionnés, à moins que ça se fasse au Congo, comme ça s'est toujours fait avec beaucoup de gouvernements. Mais ce qui est vrai, que l'FCC a perdu la majorité. Il a perdu la majorité. Les gens avaient promis au chef de l'État honoraire la loyauté, mais hier...
Oui, mais qu'est-ce qui vous garantit, que ces députés, les pétitionnaires, vont garder la même conscience jusqu'à l'installation du bureau définitif? Parce que la deuxième étape, c'est l'installation du bureau définitif.
Mais ça se dessine déjà. Vous savez, l'honorable Pouéla, Fabrice, avec ses amis et les autres, ont gagné avec Kabounda. Ils ont gagné. Kabounda a gagné dans la diplomatie anonyme. Ils ont gagné. Imaginez-vous, le FCC qui a plus de 300 quelques députés, mais hier les bureaux tombent, monsieur Gérard. C'est compliqué.
Merci beaucoup.
La dynamique a changé.
Merci beaucoup pour vous, la dynamique a changé. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Pensez-vous, comme les autres, que le FCC vient de perdre sa majorité et après ces votes, disons, l'action des pétitionnaires ouvre la voie à une nouvelle gouvernance politique prête à accompagner les chefs de l'État?
Nous allons confirmer cela, monsieur JR, c'est après le vote du bureau définitif. Alors, pour essayer d'analyser le fait qui s'est passé hier, monsieur JR, vous savez, aujourd'hui, en suivant les faits acquisés à l'ancien bureau, je n'avais pas suivi aucun fait là où les députés, les signataires des pétitions, là où ils ont dit que non, ils ont limogé l'ancien bureau puisqu'ils n'ont pas fait passer une loi en faveur de la population. Ils défendaient toujours les intérêts égoïstes.
Oui, mais quand ils ont parlé de l'incompétence et la lourdeur au niveau de la procédure législative,
Pour vous, ça, oui. ça ne vous a pas convaincu?
Ça m'a convaincu, c'est ça la démocratie, mais ce que je peux demander à nos députés, c'est de bannir leur esprit là égoïste et de mettre à côté les intérêts de leur plateforme politique. Puisqu'on peut changer de bureau et de bureau, s'il ne fait pas passer l'intérêt général de la population avant, on continuera toujours de changement en changement. Alors, ils doivent changer, ils doivent d'abord bannir leur esprit égoïste et mettre à côté les intérêts de leur tendance politique pour voir l'intérêt de la population. C'est ce qui va
faire qu'ils puissent
remplir leur tâche loyalement que nous, la population, les avons donné, M. J.
Merci beaucoup, Maître Machaka. Je crois que la ligne de Franck s'est améliorée. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour, mon ami Gér. Bonjour aux amis. Bonjour à tous les compatriotes congolais.
Voilà, depuis Autriche, vous avez souhaité intervenir dans cette émission. Vous avez dit que vous avez suivi, comme les Congolais ici à RDC, ces votes qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, d'entrée de jeu, que cela vous inspire, l'échec du FCC face aux pétitionnaires?
Oui, mon ami Gér, il y a quelques jours, merci d'abord pour la confiance. On s'est échangé avec le prof Kalala. On essaie de revenir sur le dynamisme de la réelle politique. Mm-hmm. La politique, dans son ensemble, elle reste dynamique. C'est tout à fait normal qu'il y ait, au cas de navette partant de la majorité présidentielle de 2006 à la majorité présidentielle en 2011, de 2011 pour le FCC vers 2017-2018, puis maintenant, le combat avec l'Union sacrée, tout ça, ce sont les réalités de la politique. Mais personnellement, en suivant ce qui se passe là, je vois mes compatriotes congolais se réjouir, je vois mes compatriotes congolais chanter déjà des cantiques de nouvel an. C'est pas mal parce que il y en a qui aspiraient au changement. Mais personnellement, je trouve que nous ne devons pas seulement militer pour un changement formel ou un changement externe. C'est vrai que le bureau de l'Assemblée nationale vient d'être démis de cet endroit. C'est quelque chose auquel on aspirait. Mm-hmm. Mais au lieu de nous réjouir seulement parce que le bureau est tombé, moi j'interviendrai ou je demanderai à mes compatriotes congolais de ne pas seulement se réjouir parce que le bureau a tombé tant que la majorité acquise maintenant pour l'Union sacrée ne changerait pas de manière de voir. Mmh. Parce que moi, ma crainte, c'est quand on doit continuer à se réjouir, sachant que les mêmes députés qui louaient des exploits de Kabila vont maintenant changer de camp. Mmh. Est-ce qu'ils ont aussi changé leur mentalité de faire de la politique ou ils vont aller maintenant au sein de l'Union sacrée avec les mêmes appréhensions? Alors, si c'est pour aller continuer à flatter le chef
Franck, si je comprends bien pour vous, ces élections n'ouvrent pas la voie à une nouvelle gouvernance politique. Parce que ce sont les mêmes personnes.
Je dis convenablement du point de vue formel, déjà oui, mais du point de vue interne, qu'est-ce que le peuple gagnerait en retour? Est-ce qu'il y aurait vraiment des changements tels que nous voulons l'avoir? C'est là le grand problème. Mais ma crainte, c'est parce qu'on a les mêmes animateurs qui ont dirigé pendant des décennies. Ils nous ont donné des résultats que nous avons. Nous ne voyons maintenant faire des navettes passer d'ici et là en une seule journée. Il y a quelques jours, on avait voté le budget. La majorité était intacte. Mais imaginez-vous maintenant, en espace d'une semaine, ils changent facilement de camp. Qu'est-ce qui manquerait que demain, ils ne tournent pas aussi Kazakh, au leader de l'Union sacrée? C'est là où j'ai dit, nous avons seulement au Congo un problème d'homme, un problème de mentalité. Je crois que pour être plus technique et scientifique, on ne doit pas seulement combattre les individus, on doit combattre les mauvais systèmes installés en place et qui fait que anéantir un peu les espoirs des citoyens.
Merci beaucoup.
Et Madame Mabunda représentait seulement ces systèmes, mais si les nouveaux animateurs ne change pas la manière de faire de la politique, je crois que nous reviendrons encore.
Les mêmes effets produiront, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets.
Les compatriotes congolais doivent apprendre à faire
des
très bons discernements.
Merci beaucoup.
Un discernement apparent, mais un discernement de fond.
Merci beaucoup Franck d'avoir appelé 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Nous revenons dans ces studios avec vous, Maître Guy Mafuta Kabongo. Vous êtes député national, vous avez été parmi les pétitionnaires, vous venez de suivre les trois auditeurs qui ont ouvert ces débats, Franck de Vienne, également François ici à Kinshasa et Maître Mashaka Lubumbashi. Mais d'entrée des jeux, est-ce que c'était pas un coup préparé par les députés?
Non, non, en fait, c'est une initiative qui a vu le jour au sein même du Parlement. Et c'est petit à petit, les élus individuellement ont souscrit à cette pétition qui est un acte réglementaire qui est régi par notre règlement et qui a suivi son cours normal. Donc, parler d'une préparation dans une officine, moi, personnellement, je n'y ai pas pris part. Ayant pris connaissance de ça en toute liberté, et je me suis engagé tel que je l'avais dit. J'ai voulu être en phase avec ce que la population attend réellement de nous. Et aujourd'hui, quand je suis aussi nos compatriotes qui interviennent, je sens qu'il y en a qui sont déjà dans la liesse. Il y en a qui sont prudents, il y en a qui sont même tristes ou inquiets. Il y a de quoi qu'on retrouve ces trois sentiments-là. Mais je me dis, à un moment donné, que c'est notre responsabilité. Nous qui sommes auteurs de cela, nous qui avons permis cela, d'être beaucoup plus conséquents. D'être beaucoup plus conséquents par rapport à l'espoir qu'on suscite à la population, par rapport aux inquiétudes que la population aussi éprouve pour les rassurer. C'est vrai, c'est le même système comme l'a dit un intervenant. Ce sont les mêmes animateurs. Qu'est-ce qui prouve qu'il y aura changement? Mais je crois qu'il faut donner la chance aux politiques aussi de se régénérer, d'avoir aussi conscience de certaines réalités et de revenir sur la bonne voie pour une bonne gestion. Et je crois que c'est possible. Il n'y aura jamais une génération spontanée qui viendra changer tout au même moment. Nos enfants héritent quelque chose de nous. Ils voient ce que nous faisons et vont avoir quelque chose de nous aussi. Donc, il nous revient à nous petit à petit. Peut-être qu'on ne fera pas le 100% de ce qu'attend la population, mais qu'il y ait quand même un commencement. Il faut donner la chance au Congo d'aller de l'avant.
Vous êtes également juriste. Que répondez-vous à ceux qui estiment que il s'agit là d'un coup d'État constitutionnel?
Non, je crois pas. Je serais peiné si jusqu'à la fin il y a eu boycott, il y a eu non-participation d'un camp. Mais vous avez suivi au troisième jour, parce que c'est en trois phases. Dépôt pétition, mise en place du bureau d'âge, et puis le vote, examen et vote. À la troisième phase, il y a eu la maturité qui a élu domicile. C'est vrai, il y a eu des couacs ça et là pour qu'on atterrisse. Hein. Mais à la troisième phase, chacun de nous a pris conscience qu'il fallait aller jusqu'aux unes. Comme je l'ai dit toujours, si le débat est la majorité, il faut clore ce débat. Voir si le Congo peut avoir une chance de décoller. Et je pense que ce débat-là est en voie d'être clos. Je dis bien « et en voie d'être clos » parce qu'il y a une étape importante qui va venir, le bureau définitif, pour voir si le Congo peut avoir une chance de décoller.
Est-ce que la procédure a été respectée? D'aucuns disent que le dépôt s'est fait de manière un peu irrégulière.
Non. Moi, personnellement, j'ai été présent le samedi. Le samedi
c'est
un jour...
C'est le secrétaire général qui réceptionne au lieu du rapporteur.
Quand vous arrivez dans un établissement public, la deuxième institution du pays, une institution très importante, et que tout est fermé. Je veux faire rire, même les toilettes étaient fermées parce que j'avais envie d'aller à côté. Les toilettes étaient également fermées. Quelque part, c'est quand même grave. Et je suis aussi avocat, vous l'avez dit. La loi prévoit pour notifier un acte. Si le destinataire refuse de réceptionner, si le destinataire s'organise pour ne pas réceptionner l'acte, la loi prévoit des mécanismes pour que l'acte soit censé avoir été communiqué. Et je pense que dans la délégation des pétitionnaires, il y avait aussi des juristes qui étaient préparés à cela et l'acte a été régulièrement instrumentalisé.
Alors, vous êtes également du FCC. Nous avions suivi les bureaux d'âge convoquer une plénière qui devait, au fait, accoucher, l'examen de cette pétition. Mais de l'autre côté, on a vu également l'ancien bureau convoquer, suspendre les plénières et en même temps...
Puis reconvoquer. Il y a même eu trois communiqués, premier vice-président, rapporteur et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour corroborer à ce que j'ai dit. On s'organise pour ne pas recevoir un acte. un acte est pourtant réglementaire, un acte régi par le règlement. Mais je crois que là, c'est une page de tournée, ce qui d'ailleurs a donné lieu à des violences que je condamne, parce que pour ma part, la violence ne peut pas être acceptée, peu importe les raisons. On peut avoir raison, mais quand on donne lieu à la violence, c'est condamnable. Et donc, j'ai une violence qui pouvait être évitée, qui malheureusement a eu à donner lieu à des casses. Il y a même des gens qui sont à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui.
Alors, que vous inspire des phrases telles que « Nous avons perdu la bataille, mais la lutte continue ».
C'est de bonnes guerres.
Nous avons vu des tweets depuis hier soir.
C'est de bonnes guerres. C'est quand même, il faut pas aujourd'hui dire que le FCC c'est rien. Non, là il faut se tromper. Le FCC est une force politique qui existe. C'est de bonnes guerres qu'il y ait une force comme ça. Parce que comme je l'ai dit, la première étape, le bureau est tombé. Il y a une deuxième étape. Il y a un nouveau bureau. Ne pensez pas que le FCC va rester les bras croisés. Quoi de plus normal que de mobiliser les siens pour une nouvelle joute démocratique.
Voilà, on va poursuivre cette émission. Il y a d'autres auditeurs qui nous ont rejoints. Amos de Bukavu, Maître Marcelin de Kikwit, et puis Professeur Mpoto, qui est professeur pour la résolution des conflits. Amos, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour, JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre réaction après avoir suivi ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale?
En fait, nous avons tout suivi hier avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Mais depuis ma bouche, j'étais à poser une question à l'invité. En quoi un des mots devient fait tout simplement parce qu'il venait de changer le cas? Ça, c'est la première préoccupation. Parce que ce que vous devez savoir, hier, l'UDC se le cache à qualifier tout le monde d'IFCC de médiocre. Et ce sont les mêmes gens qui sont en train de quitter l'IFCC, si du moins ce n'est pas une grogne au sein du FCC ou un plat du FCC qui sont en train d'être recrutés par l'UDC pour ne pas parler du cash. Et nous savons tous ce que ces gens ont causé pour la République. Je voulais savoir, avec l'invité au studio, les mêmes députés ont aidé la Kabylie à mettre à genoux le pays. Aujourd'hui, ils sont en train de faire semblant parce que les informations à notre possession. Il y a beaucoup de regroupements qui sont en train de changer le cas aujourd'hui pour le cash. Est-ce qu'ils vont là au nom du patriotisme? Est-ce qu'ils vont là au nom de leurs intérêts partisans? Au nom du patriotisme, à mon niveau, non. À mon avis, non vraiment. Parce que si du moins c'était au nom du patriotisme, les combats que nous avons menés 2015, 2016, 2017, ces gens devaient le prouver en face du monde et au peuple congolais. Ce qui n'a pas été le cas.
Oui, mais Amos,
l'autre cas, oui, j'ai.
Mais nous sommes dans le contexte différent. Le contexte de 2006-2011, c'est différent pratiquement avec le contexte d'après 2018.
J'ai parlé de 2015-2016. C'est là qu'ils devaient nous prouver leur patriotisme avec nos collègues que nous avons perdus, je vois Thérèse Kapangala, je vois Rossi Mukendi et les autres. Moi, j'attends ces gens à l'œuvre, sincèrement j'y ai. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la déchéance des individus, c'est plutôt l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Mais si ce sont ces mêmes gens qui ont hier mal géré, les médiocres d'hier qui veulent se faire passer comme des saints aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils sont à la tête de leurs intérêts. Ils sont en train de suivre l'odeur du pouvoir. Je pense que ça risque d'être une réussite de ces mêmes individus au détriment du peuple congolais que nous sommes.
Voilà, comme Maître Machaka dit, l'intérêt général.
Comme j'ai vu déjà jubiler.
Oui, l'intérêt personnel a lieu place de l'intérêt général.
Analyser ces gens à l'œuvre.
Merci
dans
beaucoup.
Dans le cas contraire, j'y ai. Nous risquons de pleurer demain parce que ce sont les mêmes gens. C'est Saint-Pierre qui est en train d'être déshabillé
pour habiller
Saint-Jean.
Merci beaucoup. Voilà, encore faut-il que cette robe puisse bien, disons, contenir Saint-Jean qui pourrait porter peut-être non pas la même taille. Merci beaucoup, Amos, d'avoir appelé de Bukavu. Monsieur Marcelin, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité.
Quelle est votre réaction, Marcelin?
Oui, merci de la parole que vous m'accordez. D'entrée de jeu, j'adresse mes salutations les plus distinguées à la prise de conscience qu'a manifesté hier nos députés nationaux. car ils ont su mesurer la misère que traverse le peuple congolais. Ils ont dû agir au nom et pour le compte du peuple congolais, car autant ils étaient bornés à une couche, je ne sais pas, pour amener ces pays dans les chaos. Mais néanmoins, cet exercice d'hier a prouvé à la face du monde que néanmoins nos députés ont recouvré leur conscience afin de savoir qu'ils sont là pour aider les peuples congolais, pour les intérêts des peuples congolais, et non pour les intérêts d'une plateforme. D'une plateforme. En bref, la pétition État un droit démocratique, c'est ce qui a été fait. Jeannie Mamounda a mis de côté. Maintenant, c'est le temps de s'unir afin de placer une pierre angulaire à l'édification d'un État des droits tant prôné par le président de la République et voulu par les peuples congolais, afin de ce pays à développer, à aller de l'avant.
Merci beaucoup, maître Marcelin. Alors, professeur Poto, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, quelle est votre réaction après avoir suivi les votes d'hier à l'Assemblée nationale?
C'était un moment très captivant, un moment qu'on dit fondateur, en fait. Je crois qu'il y a, en matière de gestion du projet, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, il y a eu dans l'histoire récente du pays, il y a eu un attelage dénommé FCC. Donc, la dynamique d'hier impose de faire voir que, voilà, c'était un appelage d'opportunistes, et c'est cosmétique. Donc, en fait, en gros, il y a moi beaucoup plus fondamentalement, de manière objective, ce qui m'intéresse, c'est en fait il y a trois paramètres. Premier paramètre, c'est donc ce que j'ai dit tantôt, c'est en termes de gestion de projet. C'est la fin d'un cycle, ça c'est évident. Et les moments fondateurs étaient posés par le discours programme du chef de l'État. Et j'ai dit discours programme, en fait, mais ça c'est le moment fondateur. En fait, en sociologie, quand on se réfère à un auteur bien reconnu, Max Weber, le chef de l'État a fait montre de ce qu'on appelle le charisme en tant que leadership. Il a fait montre du charisme des fondations. J'ai fait un parallélisme avec son père. Son père a contribué sous Mobutu à faire preuve d'un charisme des résistances et des libérations. Il a permis au peuple de ne plus avoir peur, de pouvoir transcender la peur. Donc, et le fils est un peu, franchement, dans la foulée, lui, il impose un tempo.
Professeur Poto, pour vous, les députés ont transcendé la peur.
Tout à fait.
Ils ont quitté le monde des consignes pour voir aujourd'hui l'intérêt général.
Tout à fait, tout à fait. On dit en latin, c'est du vieux romain. Ça ne suffit pas pour lui, l'ex suprême. L'intérêt du peuple est la loi suprême. C'est ça qui l'importe. Et c'est un paradigme qu'impose pour le moment le chef de l'État.
Merci beaucoup, paradigme. Professeur. Merci beaucoup, professeur Poto. On va vous retrouver très prochainement dans un autre débat. Alors, Sylvain, vous êtes à Mahagui. Sylvain, bonjour. Merci de nous avoir rejoints.
Bonjour.
Quelle est votre réaction après avoir suivi les votes à l'Assemblée nationale hier?
Je voudrais d'abord dire que lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale et on parle des députés nationaux, ce sont des hommes d'État, des personnes qui représentent les aspirations du peuple. Et puisque le mandat est représentatif, ils devront comprendre que l'essentiel de leur combat, c'est la défense des intérêts citoyens. Alors nous avons assisté pendant plus de 15 ans à une scène de militantisme outré. Il faut dire ici sincèrement, par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, il faut féliciter l'acte posé par ces députés. Une seule fois dans l'histoire du Parlement congolais, les députés nous démontrent aujourd'hui qu'ils ont écouté la voix du peuple, la voix de la rue, celle qui se lamente quotidiennement. Je voudrais, en intervenant dans cette émission, si vous le permettez, interpeller tous les acteurs politiques congolais. Qu'ils sachent que lorsqu'on est acteur politique, et surtout lorsqu'on a reçu le mandat du peuple, il faut mettre au centre de ses préoccupations, au centre de ses actions, les intérêts suprêmes de la République. Ce qui se passe au Congo n'honore pas la République. Il faut qu'on se le dise. Nous avons vu des gens qui étaient pourtant capables. Puisque je dois vous dire peut-être, pour surprendre Mme Jeannine, à qui j'avais beaucoup de confiance, comme une femme, à sa qualité, il s'est fait malheureusement rouler par l'opinion d'un homme au lieu d'écouter les nombres de gens qui l'ont envoyé les représenter dans l'Assemblée nationale. Et ceci devrait être une interpellation pour même le bureau provisoire qui est là, et même le bureau définitif qui sera élu. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui tue ce pays, c'est un peu cette irresponsabilité politique des non-hommes politiques. Pourtant, lorsqu'ils viennent vers le peuple pour demander les quittis de représentativité, ils le donnent toutes les promesses du monde. Mais arrivé là-bas, nous voyons
c'est
des gens
chose.
Qui sont au compte de certains individus et au compte de certains positionnements. Je voudrais ici dire, il ne faut pas que cette soirée soit une théâtralisation de la vie politique telle que nous sommes habitués dans ces pays. Il faut que nous puissions finalement dire que nous voulons faire décoller ces pays, notre petite démocratie parlementaire, au profit des intérêts républicains.
Merci
c'est
beaucoup.
Pour moi.
Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé de Bagui. Alors, théâtralisation de la vie politique, Maître Guillaume Fouta.
Je ne crois pas. Je suis assez adulte et responsable pour m'adonner à ce genre de pratique. Mais j'aimerais quand même remercier les compatriotes qui sont intervenus. Je commence par Sylvain Amagui, qui a interpellé nous politiques au sens de l'État. Et je pense que la démarche s'inscrit dans cet élan républicain, cet éveil patriotique pour que l'intérêt de la population soit effectivement le mot d'ordre. Il y a notre ami Amos qui était un peu plus tranché vis-à-vis de nous, disant qu'on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Mais je crois qu'il faut quand même donner la chance une fois aux Congolais de s'assumer aussi. Ce n'est pas du tout ce qu'ils croient. Le but, c'est que la population se retrouve. La motivation, comme je l'ai dit toujours, elle est d'abord sociale. Parce que nous sommes en contact avec le Congolais du Congo profond, qui souffre, qui ne connaît ni FCC, ni cash, je le répète encore, qui a vu un Guy Mafouta venir lui demander sa voix pour être son porte-parole. Et pour une fois au moins que les Congolais prouvent, les députés congolais prouvent qu'ils peuvent se départir de leurs appartenances politiques pour parler la même voix, je crois que la population devrait quand même donner un crédit à une telle démarche.
Donc il n'y a pas eu de l'argent qui a circulé, comme on l'a toujours eu comme information à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre au niveau de l'Assemblée nationale.
Moi, je crois que réduire le député à l'argent, c'est mal connaître le député quand même, le travail du député. Je vous dis, moi qui vous parle là, c'est le cinquième mois que je ne touche même pas à mes émoluments. Parce que j'ai pris des engagements dans ma circonscription électorale.
Ça me dit, c'est ce qui a énervé d'ailleurs les députés jusqu'à pousser Babunda à partir. Parce que
je vous dis, chaque semaine, j'enterre un mort, j'achète un cercueil. La moyenne, c'est un cercueil par semaine. Des fois, j'en arrive à trois. C'est quand même difficile. Là où l'État devait intervenir, là où les branches de l'État devaient fonctionner, l'État ne fonctionne plus. Du coup, c'est le député qui joue un peu le rôle de cet exécutif, ce qui n'est pas normal. Mais quand on voit la souffrance de la population, les difficultés, on ne peut pas se réserver. C'est quand même difficile. L'argent, je ne pense pas réduire ça en termes d'argent, c'est quand même injurieux aussi. Je vous ai dit, il y avait pratiquement trois jours où chaque camp avait des réunions pour essayer de sensibiliser ses élus à un vote responsable. Au bout de trois jours, on est quand même assez mature pour réfléchir et prendre la bonne décision. Au bout de trois jours, nos bases respectives, ceux qui nous ont élus, nous ont appelés pour vous dire clairement que nous ici, voilà ce qu'il y a. Et je pense que la sommation de toutes ces considérations a donné lieu au vote d'hier.
Est-ce qu'il n'y a pas eu usage des faux au niveau des signatures recueillies dans cette pétition?
Je crois que séance tenante,
on va suivre le rapporteur dans sa plaidoirie. La si bien mentionné.
Je crois que séance tenante, on nous a distribué les papiers. Chacun de nous, on a terminé tard. Aura certainement le temps de comparer ce qu'a dit le rapporteur et même tout le monde, tous les membres du bureau attaqués avaient les copies de leurs pétitions. Ils ont certainement eu aussi le temps de faire le même exercice. Mais je crois pas que à un certain niveau de responsabilité, on peut en arriver là. J'aimerais vous rappeler, Monsieur JR, pour faire tomber un membre du bureau, c'est le dixième des signatures qui est requise, soit 50. Pour faire tomber le président, c'est le un quart, soit 125. Mais de toutes ces pétitions, nous avons dépassé les 250. Ce qui pouvait dire, quand bien même il y aurait un pourcentage assez suspect, ça n'entame en rien le seuil exigé pour qu'une pétition soit valable. Mais en tant qu'avocat, je dis aussi que la faute corrompt. Hein, donc je me dis, il faut savoir vérifier les choses aussi. Le rapporteur est un monsieur très élégant. Hein. Moi, personnellement, c'est un monsieur, même beaucoup de députés l'apprécient beaucoup. On l'appelle d'ailleurs excellent rapporteur, à donner des faits. Et on va vérifier aussi.
Alors, on sait que aujourd'hui, le bureau est tombé. Et le calendrier, c'est dans un bref délai que le bureau d'âge pourrait convoquer la plénière pour élire le bureau définitif.
Bon, il y a des contraintes constitutionnelles.
Les 15, l'Assemblée, disons le Parlement, est censé être en vacances parlementaires.
C'est ce que j'avais dit, il y a des contraintes constitutionnelles par rapport au calendrier. Vous avez indiqué la date du 15 qui constitue la clôture de la session parlementaire. Il y a également l'obligation constitutionnelle du chef de l'État à faire adresser un message à la nation, l'État de la nation. C'est autant de contraintes qui déjà nous poussent à croire qu'il y aura une célérité dans le traitement de ces questions-là. On va voir le programme que va nous produire le bureau d'âge. Mais déjà, on se voit profiler alors...
La mission de pouvoir installer les bureaux définitifs. Est-ce que les bureaux d'âge a aussi d'autres matières qu'il peut
proposer? Non, c'est l'unique mission. L'unique mission qu'il a, c'est installer, organiser les élections du nouveau bureau, du prochain bureau. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre mission.
Sinon, ça serait, aller à l'encontre de la Constitution.
Moi, je crois que c'est un cas de figure auquel on n'a jamais pensé. Et en pareil cas, il faut aussi que l'intervention de la Cour constitutionnelle nous rassure que telle pratique, tel acte qu'on veut poser ne va pas énerver les dispositions constitutionnelles.
On va rouvrir les standards et accueillir Jacques qui est à Kinshasa, Patrick qui est à Goma. Jacques, vous êtes avec nous? Patrick à Goma, on va vous accorder la parole, 081-890-6330, encore le 081-890-4969.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous accordent la parole. Patrick, vous êtes à Goma et Jacques à Kinshasa. Jacques, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre réaction?
Bon, nous tenons premièrement à remercier nos députés nationaux qui ont imposé un acte d'amour du fait que, vous savez vous-même, la crise qui traverse dans ce pays. On ne peut pas laisser un groupe d'individus prendre ces pays en otage. Le moment est venu où on doit se rassembler tous, rassembler nos capacités, nos forces, nos compétences pour contribuer au développement de notre pays.
Merci beaucoup, Jacques. Allô, Jacques?
Oui, je vous capte.
Oui, vous avez encore quelque chose à dire?
Bon, voilà, merci. Je d'abord le chef de l'État pour le discours qu'il vient de nous apporter récemment. C'est un discours révoltant. Je pense que le chef de l'État a pris en note toutes les préoccupations de la population congolaise.
Merci beaucoup, Jacques. Alors, Patrick, vous êtes à Goma. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour, Radio Capi.
Quel est votre avis?
Ah oui, mon avis est que je suis très content de cet exercice de la démocratie qui se vit dans notre pays. C'est du jamais vu. Nous n'avons jamais cru que des choses pareilles pouvaient se passer en RDC. Lorsqu'on a destitué un président, c'est une autre autorité dans notre pays. On ne croyait pas parce qu'on croyait que le FCC, c'est une grande machine, qu'on ne pouvait pas toucher un de l'air. Mais voilà, l'exercice démocratique vient de montrer combien de fois nous sommes en train de faire accroître notre niveau de maturité sur la démocratie.
Merci beaucoup, Patrick, d'avoir appelé des Goma. Alors, Christian, vous nous avez également rejoint. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Christian.
Bonjour, Jerry. Bonjour, auditeurs.
Quelle est votre réaction?
Bon, il faut dire déjà que c'est une victoire pour le pétitionnaire. Mais là, le RCC a perdu la bataille, mais pas la guerre. Parce que le plus dur reste à faire en ce qui concerne l'élection du nouveau bureau. En tout cas, là, il faut jouer le tout pour le tout. Mais déjà, à la ligne où vont les choses, je crois que l'Union sacrée est en train de dessiner sa carte. Et donc, nous appelons les uns aux autres de demeurer toujours dynamiques. Et afin que ce qui se fait hier soit encore réédité le jour de l'élection. Et voilà, c'est en fait la beauté de la démocratie, c'est la démocratie qui sera victorieuse et installée dans ce pays.
Oui. Est-ce que Christian, vous pensez comme les autres que petit à petit, le chef de l'État est en train d'obtenir sa majorité qu'il cherche?
Mais Jean Lungembo, quand vous regardez même sur le plan, en fait, les caractères supranationaux de ce que le chef de l'État est en train de faire, vous verrez que même dans l'Occident, il est soutenu. Et ici, à l'interne, il y a déjà des liens partout. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est vraiment l'architecte qu'il fallait et l'homme de la situation. Et donc, déjà, les choses semblent bien évoluer. Mais, en tout cas, l'élément décisif, c'est l'élection du nouveau bureau qui pourra vraiment, finalement, ou couronner ses efforts hier jusqu'à
Merci beaucoup, Christian. Voilà, donc on se rend compte que finalement, les aspirations, les attentes du peuple ont été, disons, trouvées quand même un écho favorable, hein, non seulement par les discours, mais aussi par le discours du chef de l'État, mais aussi par l'acte que viennent déposer les députés nationaux.
Effectivement, en suivant et en écoutant les interventions de vos auditeurs, on se rend compte que la majeure partie de la population a salué l'acte. Mmh. Et non seulement ça, nous on a terminé les travaux vers 1h, je crois. Et en quittant le palais du peuple vers la maison, on a su lire
la liesse générale,
la liesse et ainsi de suite. Mmh. Pour dire que la population attendait quelque chose dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire confiance à ses élus, qu'ils peuvent, au moment crucial, se départir de leurs appartenances politiques pour voir l'intérêt du peuple. Mais comme je l'ai dit, l'espoir est suscité et c'est aussi une lourde responsabilité pour nous d'assurer de ne pas refaire ce qu'on aura reproché à ceux qui sont sortis, quoi.
Alors je reviens encore sur ma question, est-ce que les pétitionnaires vont maintenir leur conscience jusqu'à l'installation du bureau définitif?
En fait, certainement que déjà à partir de d'hier, hein, c'est la question qui taraude beaucoup d'esprit et chacun de nous devant l'acte accompli et encore une fois devant sa responsabilité. Dans tout ça, il faut qu'on ait à l'esprit l'intérêt commun, savoir ce que nous voulons et où nous voulons amener ce Congo.
Alors, l'élection s'est passée sans téléphone pour une première fois, ce qui veut dire que finalement cet élément, le téléphone, a joué un rôle par le passé.
Bon, c'est pour dire que chacun de nous a été mis devant sa propre conscience dans l'urne pour que le secret du délibéré ou le secret du vote soit respecté, pour qu'on ne dise pas qu'il a voté, il a pris la photo pour X ou Y récompense ultérieure. Nous pensons que c'est un bel exemple, c'est un beau jeu démocratique auquel le Congo a eu droit et nous pensons que ça pourra continuer ainsi, que la conscience de chacun de nous soit le maître mot. Depuis toujours, la population a toujours décrié le politique congolais, les députés que nous sommes élus, qu'on serait subordonnés à des ordres venant de gauche ou à droite. C'est la même chose, c'est partout, hein. Je ne parle pas d'un camp ou de l'autre. Mais aujourd'hui, quand vous avez quand même un groupe donné d'élus qui parlent de la même voix, et je crois que c'est une bonne indication.
Alors, avant de conclure cette émission, on va écouter quand même Elie Elokwa, de Mbandaka. Elie, vous êtes avec nous?
Oui, allô, Radio Capi, je suis avec vous. Bonjour à tous les auditeurs. Je profite directement de cette occasion pour remercier la pertinence de la cérémonie qui venait d'être passée au sein de notre Assemblée nationale. En tout cas, c'est une expression du peuple. En tout cas, la population congolaise, au regard de la Constitution, peut s'exprimer par trois voies. La première voie que le peuple peut s'exprimer, c'est la voie des élections. Et la deuxième voie dont le peuple peut se soumettre, c'est la voie des référendums. Et tandis que la troisième voie, c'est par la voie de ses représentants. C'est par la voix de nos représentants que le peuple congolais peut s'exprimer. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Et nous sommes très émus, très contents, nous sommes épris de joie, avec une liesse de gentillesse aujourd'hui, de voir pour la première fois en République démocratique du Congo, les représentants en qui la population congolaise a placé la confiance pour un mandat de 5 ans, à essayer de résoudre la vraie problématique sur la gouvernance institutionnelle.
Voilà, Eli, est-ce qu'à ce niveau, oui, on peut dire que les élus du peuple viennent à peine de renouveler leur confiance auprès du peuple?
En tout cas, je dis bien, c'est la toute première fois de voir les représentants en qui le peuple a placé confiance, en tout cas, de procéder à donner des solutions aux problèmes sociaux de la population et par la déchéance de ces bureaux qui étouffent, ou aussi bien entendu, qui inhibent les actions gouvernementales au sein de notre pays.
Merci beaucoup, Eli. On a plus assez de temps. Marie-Paul, vous allez placer justement. Marie-Paul?
Oui.
Bonjour, vous êtes à Kisangani. Quelle est votre réaction?
Oui, je pense que c'est dans tout État démocratique, lorsque il y a quand même une certaine responsabilité, une certaine engagement par les représentants, je pense que on ne peut pas beaucoup plus s'en réjouir parce qu'il s'agit là d'un fait démocratique. Néanmoins, ce qu'il faut peut-être un peu entrevoir, c'est que on doit observer la suite parce que dans les jeux politiques ou dans les systèmes politiques, dans
la politique, et les dynamiques,
il y a toujours des jeux qui peuvent se jouer. Mais ce qui est fait, c'est d'abord un signe qui démontre en suffisance qu'on a quand même tenu compte des ras-le-bol de la population.
Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, Maître Guy Mafuta Kabongo, nous allons conclure cette émission. Il y a eu élection. La suite, c'est ce que la population attend.
Oui, effectivement, nous sommes, pour ne pas me répéter, devant nos responsabilités. Mmh. Nous avons porté...
Mais l'FCC n'a pas perdu, n'a pas encore... la majorité n'a pas basculé.
Nous avons posé un acte, et c'est un acte historique, qui fera, quoi qu'il arrive, que les choses ne soient plus les mêmes comme avant. Et là, il nous revient à nous, responsables, politiques, décideurs, de voir quel avenir pour notre pays, quelle direction accorder à notre pays. Le chef de l'État a déjà tracé les lignes, a donné des indications, une voie à suivre, à nous responsables de voir comment, que faire pour que la population puisse se retrouver et avoir aussi ce droit au chapitre.
Voilà. Alors, est-ce que en ce moment, comme il y a le bureau d'âge, le chef de l'État peut avoir la manœuvre de pouvoir nommer un informateur?
J'entends un débat à gauche, à droite, et il faut le contre-saint. En fait, il y a deux problèmes qui se posent. En venant ici, j'ai encore relu ma constitution. Le chef de l'État, pour nommer un informateur, n'a pas besoin de contre-saint. Ça, c'est la constitution qui le dit et c'est clair. Ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est que pendant qu'il y a un gouvernement en place, peut-il le faire? Et là, la constitution n'est pas trop bavarde. Elle n'est pas trop bavarde. Quand je lis, il n'y a pas une interdiction formelle dans ce sens-là. Il revient aux uns aux autres de voir quelle est la meilleure direction pour le pays. Et je pense que ce n'est que avec un sentiment, un regain de patriotisme et de l'élégance politique surtout. Il y a eu un acte important qui s'est posé hier qui a fait que beaucoup de choses ont bougé. Et il faut tenir compte de ça dans la posture d'homme d'État pour savoir quel acte poser pour la suite.
Alors, partant de ces résultats, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a un problème de majorité qu'il doit falloir identifier maintenant?
La question soulevée par le chef de l'État a trouvé une réponse. Ce qu'on a retenu au début de la législature n'est plus la même chose que ce qui a été concrétisé, cristallisé hier soir.
Mais la même majorité, il y a quelques jours, avait approuvé la loi des finances publiques.
La loi des finances publiques et l'acte posé hier, c'est autre chose qu'il ne faut pas mélanger. Donc là, nous sommes devant des élus, devant leurs responsabilités, qui ont levé une option qui soit en phase avec les Congolais qui vivent dans le Congo profond.
Maître Guy Mafuta Kabongo, merci de nous avoir donné l'occasion d'échanger avec vous et avec l'ensemble des internautes sur cette question des élections qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale qui a donné lieu à la déchéance de l'ancien bureau. La suite, c'est que nous attendons la mise en place d'un bureau définitif et on saura si la conscience des députés se maintient toujours à ce niveau. Il faut qu'on merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, M. JR.
Merci beaucoup à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Dieudonné Niankassa et Marcel Ngombombala. J'étais très heureux de partager ces moments ensemble avec vous. Nous avons coordonné cette émission et présenté ensemble avec vos idées. Il faut encore merci. Je souhaite à tous de passer une très 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 bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. À très bientôt.